Pierre, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue Rwandi Paul Kagame se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha à l'initiative de l'émir du Qatar Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani au moment où le regard des Congolais était tourné vers les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 qui étaient prévues le même 18 mars à Luanda sous la médiation du président angolais. Si à Luanda les négociations directes n'ont pu avoir lieu après le désistement du M23 du se rendre dans la capitale angolaise en revanche à Doha. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et conditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné loin de Nairobi, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. En réaction à cette rencontre de Doha, le 20 mars dernier, interrogé par la presse en marge de la fin de la visite du président de la Commission de l'Union africaine à l'Angola, le ministre angolais des Relations extérieures a estimé que tous les efforts en faveur des résolutions des conflits sont les bienvenus, mais a insisté sur le fait que le peuple africain devrait trouver des solutions africaines et n'a pas manqué de souligner que le président angolais a été surpris par l'initiative du Qatar. De son côté, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, lors du café de presse tenu ce samedi 22 mars à Kinshasa, face aux interrogations soulevées sur cette rencontre et surprise non annoncée de Doha, elle a précisé que la dite rencontre doit être considéré comme complémentaire aux autres processus en cours et ne devait pas être singularisé. Cependant, pour certains analystes politiques congolais, à ce jour, tous les processus de paix en rapport avec le conflit dans l'Est de la RDC ne peuvent se réaliser que dans le cadre de la résolution 2773 adoptée le 21 février 2025 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Que pensez-vous de cette rencontre de Doha entre les deux chefs d'État congolais rwandais à l'initiative de l'émir du Qatar? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse p@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs. Encore intervenir en direct en composant les 085 44 65 536. Dieudonné Nyangasé est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé et coordonné par Julie Feza Bongonda, Elise Kavira, Trio Bandé et pour l'équipe multimédia, Nelson Nyombe est bel et bien là. Et au micro, c'est Marcel Ngombala, toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Et voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Comme chaque fois, nous aurons l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions, bien entendu. On va également ouvrir le standard pour permettre à certains d'entre vous de réagir en direct. Et pour parler de cette rencontre de Doha entre les deux chefs d'État rwandais et congolais, à l'initiative de l'émir du Qatar, je l'ai plaisir de recevoir encore une fois dans ce studio le professeur Tshibangu Kalala. Professeur, bonjour.
Bonjour, Marcel.
Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio pour aborder cette question sur tous les processus de paix en rapport avec la situation à l'est de la RDC. Voici, aujourd'hui, on va parler de cette rencontre de Doha où deux chefs d'État rwandais et congolais ont réaffirmé leur engagement, pour ce qui est d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné loin de Nairobi, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Mais il faut le dire, pour certains analystes congolais, quels que soient les processus en cours aujourd'hui ou dans l'avenir, tout doit se passer dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut absolument que tous les processus de paix se passent dans le cadre de cette résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. Pourquoi, professeur?
Merci beaucoup, Marcel Ngombo, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Notre maison est en train de brûler. Les femmes et les enfants sont sous les flammes. Donc, nous devons nous mettre debout pour défendre la patrie et défendre nos compatriotes. Je vais d'abord commencer par vous lire la résolution 27. Ce sont 13, deux articles qui sont pertinents. Et pour expliquer pourquoi, personnellement, je suis très attaché au rôle du Conseil de sécurité, très très attaché à la résolution 27-73. Ben, je vous avais déjà dit à la dernière émission que j'ai rédigé un livre sur l'ONU et sur le Conseil de sécurité. Je suis un tout petit peu spécialiste de l'ONU. Pour les auditeurs de Radio Okapi que je salue, il y a l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Cet article dit ceci, une partie. L'article dit ceci, les membres des Nations Unies confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui vient après, c'est très important. Et reconnaissent, tous les États, reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la résolution 2773, qui est une décision du Conseil de sécurité, cette décision s'impose à tous les États membres, à commencer par la RDC, qui est un membre. Le Burundi, le Rwanda, les États de la SADC, etc., tous les pays du monde reconnaissent que lorsque le Conseil de sécurité prend une décision, le Conseil agit en leur nom. Ça signifie que le Conseil est mandaté par tous les États du monde d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et l'article 25, qui vient juste après l'article 24, dit ceci, que tous les États membres des Nations Unies ont pris l'engagement d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Ça signifie que lorsque le Conseil prend une décision, tous les États ont déjà accepté à l'avance de reconnaître cette décision, de l'accepter et de l'appliquer. Donc il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est du droit international. C'est la charte. Et donc, la résolution 2773, c'est une décision du Conseil de sécurité adoptée sur la base du chapitre 7 de la charte que je viens de lire. Encore une fois, il faut rappeler ce que cette résolution dit. S'agissant du Rwanda, le Conseil décide pour le M23. C'est le paragraphe 2. Décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer des Goma, des Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, y compris les routes terrestres, lacustres, et le M23 doit démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Et que ce retrait ne doit pas être entravé. Ça, c'est le Conseil de sécurité. Ça signifie tous les États du monde qui le disent, parce que le Conseil agit en leur nom. Et donc, tous les États doivent respecter cela. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'appliquer cette décision et de faire appliquer cette décision. C'est le Conseil de sécurité. Pour le Rwanda, qu'est-ce que le Conseil de sécurité a décidé? Il dit, demande que l'armée rwandaise doit cesser de soutenir le M23 et doit se retirer immédiatement du territoire de la RDC, sans condition préalable. C'est le Conseil de sécurité qui le dit. C'est une décision. Marcel Ngombo, à partir de là, il n'y a pas de discussion possible. Le Rwanda, c'est un État membre des Nations Unies qui a pris l'engagement d'accepter les décisions du Conseil de sécurité et de les appliquer. Et le Conseil dit ceci, qu'il doit le faire sans discussion, sans condition préalable. Et donc, je vais rappeler un proverbe chinois très connu, un très bon proverbe, qui dit ceci. Lorsque le sage montre du doigt le soleil, mais qu'est-ce que l'imbécile lui fait? Au lieu de regarder le soleil, ou la lune en fait, la lune que le sage lui montre du doigt, lui il regarde le doigt du sage. Oui. Donc, le sage ici c'est le conseil de sécurité, qui nous montre la lune. Mais nous ne pouvons pas, nous, le Congolais, regarder le doigt du sage au lieu de regarder la lune. Donc, la solution à nos problèmes, dans l'état actuel des choses, est déjà tracée par le Conseil de sécurité.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez des processus déjà existants avant cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? Il y a les processus de paix de Luanda et de Nairobi, et puis il y a également ces communiqués conjoints des chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC lors du sommet, je pense bien, du 8 février dernier.
Marcel Ngombo, je vais dire quelque chose à propos de ce que vous venez de dire. Dans une vie passée, j'ai eu l'occasion de passer par le gouvernement. Un jour, au cours d'une réunion spéciale, le président Kabila a dit ceci. Parce que maintenant, il faut défendre la patrie. Tout ce que nous avons comme connaissance, il faut le mettre maintenant à disposition de notre peuple. Il faut défendre la patrie qui souffre aujourd'hui. Kabila nous a dit ceci un jour. Ceux qui étaient là présents peuvent s'en souvenir. C'était à l'époque des affaires des négociations avec Edem Kodjo, et puis après la CENCO, le gouvernement, il y avait encore des désordres un peu. Kabila dit ceci, ancien président. Un chef d'État de la région m'a interpellé. Kabila n'a pas cité son nom. Il m'a interpellé pour me dire, président Kabila, je connais un petit peu l'histoire de votre pays. Je suis cette situation depuis 1960. Il y a un grand problème dans votre pays qui explique toutes les difficultés que vous avez. Quel est ce problème? Les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de votre pays. Il faut tout faire pour résoudre ce problème-là. Quand vous avez des problèmes dans votre pays, il ne faut pas accepter des interférences étrangères. Il faut vous réunir entre vos Congolais, essayer de trouver des solutions pour vous-même. J'ai retenu cette leçon dans ce conseil. Nous en sommes là aujourd'hui, Marcel Ngombo. À Luanda, on dit qu'il faut aller à Luanda. C'est comme si Joao était devenu président de la RDC. Quand il dit que les Congolais venaient, tous courent vite, tous allons à Luanda. Bon. Il y a le processus, vous parlez des Harare, hier c'était la Tanzanie Dar es Salaam. Demain on va vous dire, bon, mais allez à Nairobi. Bon, les Congolais vont courir pour aller à Nairobi. Le président Museveni a son processus, là il est en train de s'agiter, en train d'appeler aussi d'autres Congolais qui vont aller là-bas. Bon, il y a le... Je pense que le moment est venu où nous devons rentrer en nous-mêmes, trouver des solutions à nos problèmes, les trouver à nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes.
Et pas de solution africaine aux problèmes africains?
J'avais dit la fois passée, je le répète, il faut écarter les Africains. Ils n'apportent rien du tout. Ils sont en train de se réunir. Au moment où nous faisons cette émission, ils sont en train de se réunir. Ils vont se réunir aujourd'hui au niveau des chefs d'État. C'est assez. Ils n'ont aucune solution. Ils vont créer la confusion. J'ai lu le document de travail des ministres des Affaires étrangères qui ont préparé la réunion d'aujourd'hui. Dans ce document, qu'est-ce qu'il y a? Ils nous mettent un processus à court terme, à moyen terme, à long terme. À moyen terme, il faut des discussions. Court terme, il faut travailler pour le cesser le feu. Et après, on verra, après 120 jours, au-delà, on va voir comment renforcer l'armée. Ils n'ont aucun, l'armée de la RDC, ils n'ont aucun moyen pour le faire. Le Conseil de sécurité demande un retrait immédiat des troupes rwandaises. Demande au M23 de quitter très rapidement, de démanteler immédiatement, sans attendre, sans condition. Mais les Africains se réunissent là-bas pour dire, bien, on va donner 30 jours, et puis 30 jours, il y aura 120 jours, et puis 120 jours, on vient avec un dossier de feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route dans notre situation. Le pays brûle. Il n'y a pas de feuille de route. À mon avis, notre gouvernement, s'il y a cette histoire de feuille de route, il faut déchirer cette feuille de route. Je ne vois pas où est cette route, qui commence où et pour aller où. Je donne... parce qu'il faut inscrire ce qui se passe ici, dans le passé de notre pays. On a signé un accord de cessez-le-feu le 10 juillet 1999 à Lusaka. Cessez-le-feu. Eh bien, pendant 2 ou 3 ans, on a continué à se battre ici. On a signé l'accord de cessez-le-feu au mois de juillet 1999, mais en 2000, à Kisangani, les troupes rwandaises et ougandaises se sont battues à Kisangani. En 2000, alors qu'il y avait un cessez-le-feu déjà conclu. Tuer, massacrer des gens qui s'en gagnent, voyez-vous, en 2000, au mois de juin. Bon. Et le dernier soldat ougandais n'a quitté le territoire congolais qu'en 2003, le 2 juin 2003. Et donc, il ne faut pas qu'on nous amène dans les dossiers où on dit, voilà, il y a des feuilles de route, il faut jour J, 180 jours, non.
Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que vous l'avez dit, il y a la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui a annoncé sur son compte X, anciennement Twitter, la tenue d'un sommet conjoint virtuel avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a CCL, lundi 24 mars 2026. Cette réunion réunira les chefs d'État et de gouvernement des deux organisations pour discuter de la situation sécuritaire en RDC. Le sommet sera co-présidé par le président kenyan William Ruto, président en exercice de l'AC, et son homologue zimbabwéen Emmerson Nangangwa, président des sites de la SADC, et y participeront les pays membres de la double trique de la SADC ainsi que les États engagés dans la mission de la SADC en RDC. Les discussions porteront sur le rapport de la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères, tenue le 17 mars à Harare, et qui avait adopté la feuille de route pour restaurer la paix et la sécurité de la RDC. Alors, il y a une réunion qui va se tenir, il y a cette rencontre de Doha. Il y a également, on n'arrête pas de répéter le processus de Luanda, de Nairobi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand vous insistez que tout doit se passer dans le cadre de la résolution 2763 du Conseil de sécurité de l'ONU?
Ce qu'il faut faire, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup fréquenté le patriarche Tshisekedi wa Mulumba. Il nous apprenait, nous étions des jeunes turcs autour de lui. Nous lui avons posé, j'étais là, je dis, mais patriarche, mais vous êtes très dur contre Mobutu, intransigeant, extrémiste, etc. Et comment vous expliquez ça? Il nous dit ceci. Je connais bien Mobutu. Mobutu, c'est un menteur. Il ne vous dit jamais la vérité. Quand il vous dit A, sachez qu'il va faire le contraire de ce qu'il a dit. Si vous donnez à Mobutu un doigt, non seulement il va prendre le doigt, il va vous prendre le bras. Et donc, il faut être très dur avec lui. Mais... si on peut appliquer cela, dans la situation actuelle, avec le président Kagame, le président Kagame ne comprend que le rapport de force. Je suis en train de répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Kagame ne comprend que le rapport de force. Si vous lui donnez le doigt, il va prendre et le doigt et le bras, il va même prendre la jambe. Et donc, pour le président Kagame, tous les problèmes sont des clous. Et la solution, c'est l'utilisation du marteau. Tous les problèmes qu'il a rencontrés dans sa vie, il a résolu par la force, par le marteau. Et donc, par conséquent, dans la situation actuelle, il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester dans la raison du Conseil de sécurité. Et donc, le Conseil de sécurité doit être placé dans une situation où il doit taper très fort et sans tarder sur le Rwanda de Kagame. Comme le Conseil de sécurité l'avait fait contre la Libye de Kadhafi. Je m'aimerais dire, parce que vous m'avez posé la question, je vais dire ce qui s'est passé.
Contre la Libye. Rapidement, oui.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil de sécurité a pris des sanctions très dures, très sévères, contre la Libye de Kadhafi, en 1992. Pourquoi? Un avion de la compagnie américaine Panam explose en Angleterre, au-dessus d'Écosse, et tue, dans l'accident, 270 personnes. terrorisme international, le Conseil de sécurité, comme c'était les Américains, il y avait deux Français, et des Américains et des Anglais, eh bien, le Conseil de sécurité, après avoir demandé à Kadhafi de coopérer pour qu'on puisse trouver les auteurs de cet attentat, parce que finalement, après les enquêtes, on a découvert que ce sont des agents de sécurité, de renseignement, service secret libyen, qui avaient placé cette bombe pour l'avion, sur ordre de Kadhafi. Eh bien, Kadhafi n'a pas voulu coopérer avec le Conseil de sécurité, et finalement, le Conseil a pris la résolution, adoptant des sanctions sévères contre Kadhafi, pour le faire fléchir. Et Kadhafi, je vais dire un mot sur ces sanctions, et Kadhafi, qui a fait face à ces sanctions, a finalement reculé. Et il a accepté de livrer les deux suspects. Il a accepté d'indemniser les victimes de l'attentat, français, américains et anglais, en payant 2,7 milliards de dollars, imaginez, en donnant 10 millions de dollars pour chaque victime. 10 millions de dollars. 2,7 milliards. Et même les Français, c'est très important, qui avaient déjà trouvé un accord avant avec Kadhafi pour payer 1 million de dollars à chaque Français. Et quand la France apprend que Kadhafi accepte de payer 10 millions de dollars à un Américain, un Anglais, il dit, mais comment la vie d'un Français ne peut pas coûter moins cher qu'un Anglais, qu'un Américain. Monsieur Kadhafi, vous devez ajouter de l'argent. Alors que le dossier était bouclé et terminé. Mais c'était le rapport de force. Parce que la France a dit, monsieur, si vous voulez que j'accepte qu'on lève sanctions, vous devez ajouter de l'argent. Donc, il n'y a pas de diplomatie sans force militaire. Talleyrand l'avait dit. La force militaire est à la diplomatie.
Il faut être vigilant.
C'est que l'instrument est à la musique.
Il faut être vigilant. La RDC doit être vigilante.
Pas vigilante. Il faut créer un rapport de force favorable au Conseil de sécurité, à la communauté internationale. Rapport de force favorable à la RDC sur le terrain pour faire fléchir Kadhafi. Disons, faire fléchir Kagame. Et donc, il faut des sanctions sévères et dures, très dures, contre Paul Kagame, contre le Rwanda. Pas des sanctions individuelles. Il faut maintenant toucher l'État rwandais en tant qu'État, voyez-vous, comme le Conseil de sécurité l'a fait contre la Libye.
Voilà, en 92. On vous a permis...
Et je vais terminer là-dessus.
Rapidement, oui.
Je vais terminer là-dessus. On ne va pas s'en sortir tant que les troupes rwandaises sont sur notre territoire.
Il faut un retrait immédiat.
Et si Kagame ne bouge pas, il faut prendre des sanctions sévères contre le Rwanda de Kagame, comme le Conseil de sécurité l'avait fait contre la Libye de Kadhafi.
Voilà, professeur, on va vous permettre ça. On a bien compris, professeur, parce qu'il faut qu'on avance avec les auditeurs. Il faut absolument retrait immédiat des troupes rwandaises et surtout vous insister. Il faut, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, prendre des sanctions qui s'imposent au cas où le Rwanda continue à s'entêter. On revient à vous, professeur Tshibangu Kalala. On va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient réagir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Si vous voulez intervenir, on est en train de parler de cette rencontre de Doha entre les deux chefs d'État rwandais et congolais. Si vous voulez intervenir, composez les 085-44-65-536, 085-44-65-536.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on a déjà en ligne des auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Ornicar Banza qui nous appelle depuis Likasi, Patrick Odiakia, Lubumbashi et Blaise Saïdia Toubou qui est à Kisangani. On y va avec Ornicar Banza. Ornicar, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour Monsieur Marcel, je suis en ligne.
Voilà, Ornicar, je veux qu'on soit précis pour qu'on avance. On a déjà abordé ce sujet, notamment sur les initiatives angolaises pour le dialogue direct entre la RDC et le M23 qui n'ont pas abouti. Par contre, il y a eu cette rencontre à Doha qui a surpris tout le monde, entre les chefs d'État Kagame et Tshisekedi, Kagame du Rwanda, Tshisekedi de la RDC, sous l'initiative de l'émir du Qatar, où les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement pour un système cesser le feu immédiat inconditionnel, également la poursuite du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Mais il y a ceux qui estiment que, quels que soient les dialogues, quelles que soient les rencontres, tout doit se passer dans le cadre de la résolution 2773 des Nations Unies. Vous, rapidement, comment vous réagissez par rapport à ça? Comme ça, on reste précis dans les réactions. On vous écoute, Ornicar.
Monsieur Marcel, merci beaucoup. Les réseaux nous compliquent. Nécessairement, je crois que je vous ai suivi en partie, mais je pourrais répondre en disant ceci.
Oui.
Sur ce qui est vrai, nous avons besoin de cette paix, rassurez-vous. Mais réellement, il faut que nous évitions d'intercontinentaliser ces conflits, sinon les décisions ne pourront pas être beaucoup plus adaptées. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas quand même se déplacer des pays. Les chefs d'État se quittent leur pays pour aller à Doha, pour encore soutenir les processus qui ont été déjà entamés il y a longtemps. Et moi, je pourrais même dire que ces deux processus, dont le processus de Nairobi et le processus de Luanda, risqueraient d'être bloqués par deux éléments majeurs dont nous avons premièrement les sanctions hypocrites de l'Union européenne. Parce que, rappelez-vous que ce sont ces sanctions de l'Union européenne qui ont fait à ce que les éléments de M23 ne se déplacent de leur région vers Luanda. Et alors, par conséquent, je crois que ces sanctions-là risqueraient d'être intentionnelles, avec intention, bien sûr, de ne pas faciliter les dialogues entre, bien sûr, les Congolais. Et deuxièmement, la deuxième des choses qui risquerait encore de bloquer ces processus serait encore cette rencontre de Doha qui a surpris tout le monde. Comment expliquer que le même jour où il y avait le rendez-vous de Luanda, mais il y a encore une autre rencontre qui semble être parallèle? Alors je me dis, avec cette rencontre, ça risquerait nécessairement de frustrer nécessairement ou de fragiliser le processus de Luanda, et par conséquent fragiliser aussi le président ougandais qui s'est porté garant, qui avait d'ailleurs désisté. Après, il a accepté de nous accompagner dans ce processus de paix. Et par conséquent aussi, le M23, du moment où le pourparler de Doha n'a pas été filtré, le M23 AFC risquerait d'être trop méfiant. Alors que pour ce moment, nous avons beaucoup plus besoin de la confiance et de la tolérance et non de la méfiance. Et je me dis, M. Marcel, aujourd'hui là, nous allons encore parler des processus de Doha ou bien c'est une parenthèse qui a été ouverte et qui doit être fermée rapidement.
Alors pour que tout cela soit bien coordonné, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Pour que tout soit bien coordonné, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est vrai, nous avons, assurément, monsieur Marcel, aux Africains, au conflit africain, les solutions africaines.
Oui.
Au conflit congolais, les solutions congolaises. Ce qui est vrai, on doit adapter la situation. Donc, aller à Doha risquerait d'intercontinentaliser les conflits et par conséquent, nous risquerons de nous embrouiller plus. Rentrons chez nous, continuons avec les processus qui étaient déjà entamés. Je crois que ça peut
nécessairement trouver... Merci beaucoup, c'est bien clair, Onikar. Banza, merci d'avoir appelé depuis l'ICASI. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Maître Patrick Odia, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Apparemment, il n'est pas en ligne. Alors, on va aller à Kisangani pour retrouver Blaise Saïdi. Blaise Saïdi, vous êtes là?
Je suis là, cher Martin.
On vous écoute, allez-y, vous avez la parole.
Allô?
Vous avez la parole, allez-y.
Oui, merci. Oui. Cher Martin, la rencontre entre les deux présidents était une surprise pour tous.
Oui.
Pour tout le monde. Dans la forme, mais dans le fond, étant donné que le Qatar voulait jouer un rôle crucial de la négociation entre les deux pays. Malheureusement, le gouvernement congolais voyait le Qatar proche du gouvernement rwandais. Au regard des investissements au Rwanda et à la construction d'un aéroport toujours au Rwanda, cher Martin, la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et celui du Rwanda, Paul Kagame, revêt une importance significative dans le contexte de la région des Grands Lacs. Ces deux pays ont traversé des périodes de tensions diplomatiques, notamment à raison des conflits dans l'est de notre pays et des accusations réciproques d'ingérence. Cette rencontre représente donc un pas important vers la réconciliation à condition qu'elle débouche sur des actions concrètes et comprises entre les parties. L'implication de l'Émirat du Qatar était d'être vue comme un moyen de faciliter le dialogue et de désamorcer les tensions en offrant une plateforme neutre pour les discussions. Néanmoins, la question reste de savoir si cette action aboutira à des actions concrètes et un engagement réel de part et d'autre pour désamorcer le conflit, cher Marcel.
Donc, Blessé dit, si je vous comprends bien, si je vous comprends bien, Blessé de la rencontre de Doha pour vous perdre la bienvenue du moment où, s'il arrivait que cette rencontre pourrait trouver des solutions au conflit en RDC, c'est bien cela.
Oui, oui. Parce qu'au regard des conflits, vous allez vous rappeler bien qu'à un certain moment, le président Félix Tshisekedi était parti au Qatar en disant que non, c'est que le Qatar achète au niveau du Rwanda qu'ils viennent officiellement au Congo. C'est à ce niveau-là que non, nous voyons que non, puisque c'est le conflit. Puisque entre nous et le Rwanda, il y a toujours le problème des minerais. Lorsqu'ils viennent chez nous au Congo, ils cherchent seulement l'exploitation des non-minerais. C'est à ce niveau-là que non, moi je vois que non, à cette piste, ça pourrait donner quand même un autre de soulagement chez Marcel.
Voilà, merci donc, beaucoup. Que non,
pour citer, l'initiative du Qatar est une première étape positive. À mon avis.
Voilà, ça c'est votre avis. Merci, Blessaïdi. Non, c'est votre avis, on a compris. Merci, Blessaïdi, d'avoir appelé depuis Kisangani. Tridoyev, vous êtes dans la province du Laba. Vous avez la parole, on vous écoute.
Merci, Marcel. Merci. Merci à notre invité, le professeur Bangoukalala, que j'aime bien. Moi, je pense qu'après l'échec d'une première rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame en décembre, et l'annulation même des négociations entre les M23 et Kinshasa, les présidents congolais et rwandais ont finalement décidé de court-circuiter, n'est-ce pas, la médiation angolaise pour se retrouver sous l'égide de l'émir du Qatar. Alors, il faut dire que Doha a l'avantage d'entretenir ses bonnes relations avec Kinshasa, mais aussi avec Kigali, parce que cette rencontre décentralisée a également l'avantage d'externaliser, n'est-ce pas, la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en dehors de l'Afrique, où les rivalités régionales ont plongé le processus de Nairobi et de Rwanda dans l'impasse. Les deux institutions ici sous-régionales qui pilotaient les initiatives, il y a l'EAC et la SADC, étaient chacune accusées de favoriser un camp plutôt que l'autre. Alors, à la question de savoir maintenant pourquoi les deux présidents ont choisi de se rencontrer à Doha pour les négociations, est-ce pour la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo ou c'est pour autre chose? C'est là que j'aime bien le professeur Kalala qui est dans notre studio. Je l'aime bien pourquoi? Parce que la façon dont il est en train d'analyser les choses, vous allez comprendre que nous pouvons passer de négociation en négociation. Ça est là, aéré partout. La République démocratique du Congo, c'est un pays de génie. La RDC, lui, qui avait juré au travers de son président de la République de ne plus rencontrer Kagame, puisque c'est lui qui est derrière les M23, se retrouve enfin en face de son ennemi juré, et cela nous fait des questionnements dans nos têtes. Alors, pour ne même pas pour aller plus loin, je voudrais dire ceci.
Oui.
En plus, les problèmes des Congolais, je rejoins mon professeur Kalala, peut trouver une solution que par les Congolais eux-mêmes. Dans quel sens? Jusqu'à quand on va crier d'être indépendant ou nous pouvons dire que la République démocratique du Congo peut trouver une solution entre eux-mêmes? C'est seulement parce que quand nous organisons les élections, non.
Merci.
Donc nous devrions nous encourager parce que oui. Si. Je voulais aller, Marcel.
Oui.
Nous pouvons encourager d'abord la démarche des évêques et des Cinq et SSC qui visent un pacte social pour une cohésion nationale pour que finalement les gouvernements d'union nationale voulus par les présidents puissent avoir lié. Parce que notre problème, c'est de rétablir la paix à l'est du pays, pas attendu. Alors, au lieu de nous plonger dans une distraction en allant ça et là, à mon humble avis, le professeur Calabrandi dit, il faut chercher la tête du serpent qui est de s'attarder sur
voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Trudeau Yav, depuis la province du Lualaba. On a compris, Trudeau, merci d'avoir appelé depuis la province du Lualaba. Patrick, Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. J'espère que cette fois-ci, ça va bien marcher avec votre ligne téléphonique. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel et bonjour au professeur Tuban Kalala, avec qui nous avons également mis l'accent sur la primauté, j'arrive, de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et je rappelle encore qu'il n'y a aucune décision qui serait suprême ou supérieure à celle prise par le Conseil de sécurité internationale. Ça, c'est du point de vue, je peux dire, du préambule ou introduction que je fais également. Marcel, vous savez, l'initiative du Qatar intervient dans un contexte où beaucoup d'autres démarches ou processus de paix ont été déjà abordés ou initiés ou qui sont en cours également. Et la conséquence, c'est quoi? La multiplication des initiatives soulève des questions de coordination, d'ordre lié à la coordination, mais aussi l'efficacité des efforts afin de résoudre la crise. D'une part, vous avez Luanda, l'Ouganda. D'autre part également, sans oublier, je rappelle au professeur, il y a trois médiateurs, si vous voulez, facilitateurs, qui ont été désignés, notamment Uhuru Kenyatta et l'ancien président nigérien, qui jusqu'à présent n'ont pas encore commencé leur mission. Ça, c'est aussi un autre processus que je peux qualifier de la SADC et de l'EAC. Ça n'a pas encore commencé. Donc, au-delà de tous les efforts qui sont fournis, et je pense que nous allons tomber dans la diversion des efforts, et ça rendrait inefficace la résolution même du conflit également. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, il faudrait voir également des enjeux majeurs. Le premier enjeu, la guerre, il faut parler de la guerre intra-étatique, c'est-à-dire avec les groupes armés, et c'est les processus de Nairobi. Maintenant, les processus liés à la région des Grands Lacs, c'est les processus de l'Angola, dont on parle de l'Ouganda, plutôt de l'Angola, plutôt du Rwanda et que sais-je encore avec ses alliés également. Voyez-vous,
c'est bien... Maître Patrick Odia, maître Patrick, s'il vous plaît, tout ça on le sait déjà, la grande question cette fois-ci, c'est celle de savoir que faut-il faire pour une coordination intelligente de tous ces processus de manière à ce qu'on arrive à aboutir à une paix durable. Il y a ceux qui estiment, parmi lesquels le professeur Tuban Kalala, qui est mon invité, qu'il faut que tous les processus se réalisent dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Bon, c'est que le professeur a dit, j'ai parlé de ça dans l'introductif, où j'ai parlé de la primauté de la résolution de 2277 également. Marcel, il est un brocard africain qui dit, Marcel, je voudrais vous rappeler, il y a un brocard africain ou un proverbe africain qui dit, il n'y a qu'à celui qui ne sait pas ou qui a peur de grimper, qui espère les vents afin de voir une mangue. Mais sinon, celui qui sait grimper à l'arbre là, n'a pas besoin d'attendre ou d'espérer les vents afin de guérir une mangue, s'il en a besoin également. Il en est de même également avec la RDC. La solution ne viendra pas de l'extérieur, du vent, mais plutôt nous devons nous efforcer de grimper l'arbre afin de guérir la mangue si nous avons également besoin. Mais si nous avons peur et si nous continuons à mener une diplomatie, je pense que ça serait une balle que la RDC va se tuer également. Marcel, je voudrais également parler. Si les poissons vous disent que le crocodile qui est dans l'eau est malade, il ne faut pas douter. Le fils de Museveni, d'Akuta, de l'Ouganda, avait prévenu autrefois que Goma et l'autre seraient pris. Et après, Goma et les autres villes étaient prises également. Hier, la même chose également, après avoir eu les rencontres avec le président Kagame, dit discrètement, il annonce également la prise de Kisangani. Et entre-temps, on favorise la rencontre, on espère quelque chose, la rencontre entre Kagame au niveau du Qatar. Non, les enjeux du Qatar, il y en a trois. Le premier d'abord, c'est éviter à Tshilombo de pouvoir, M. Tshisekedi, d'éviter de parler directement avec la M23. Ça, c'est pour lui. Pour le Rwanda, c'est essayer de maîtriser la tension au niveau international afin d'échapper aux éventuelles tensions. Mais pour les Qatariens également, c'est enfin de pouvoir protéger ses intérêts au niveau des sociétés qui sont au Rwanda, mais aussi également de la compagnie aérienne rwandaise également.
Voilà, Maître Patrick Odia, là c'est votre analyse des faits, on vous les concède, mais bon, ce qu'il faut dire, nous l'avons dit, nous répétons, nous insistons, il faut trouver une solution durable, et vous estimez que la solution durable, vous l'avez dit, il faut que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies prime sur tous les autres processus, s'il y a des processus qui doivent venir, ou bien ceux qui existent déjà, cela s'est passé dans le cas cadre de cette résolution. Merci, Maître Patrick Odia, depuis Lubumbashi. On va aller à Bandundouville pour accorder la parole au professeur Vélé. Professeur Vélé, vous êtes en ligne. On vous écoute.
Et bonjour, Monsieur Marcel, et bonjour, chers auditeurs. Alors, je suis heureux de suivre cette émission et toutes les interventions qui sont passées tout à l'heure, notamment celle du professeur invité du monde. Alors, pour comprendre cette question de l'Est, je fais de mes analyses et je me rends compte qu'il faut préciser trois choses. La première, c'est que quelle est la nature de la crise dans l'Est de la RDC du Congo? Et deuxièmement, quelle approche pour la résolution de ces conflits-là? Et troisièmement, quel format il faut prendre en termes de temps et en termes de solutions pour résoudre cette crise? Voilà mes trois éléments. Et je commence par le premier élément. Je fais des analyses et je me rends compte qu'il y a deux problèmes à l'Est et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que à l'Est, nous avons la guerre de l'Est qu'il faut distinguer de la guerre à l'Est. Ces deux approches auront des solutions différentes. La situation de la RDC est spécifique. Il ne faut pas les confondre avec d'autres situations. Mais seulement il faut retenir que le conflit à l'Est est un conflit international. Et donc, pour résoudre ce conflit, il faut une approche holistique. Sinon, nous allons résoudre en partie et rester le gros du problème. Alors, pourquoi je parle de la guerre de l'Est? En fait, la guerre de l'Est, c'est le qualificatif de la situation conflictuelle, latente, récurrente et permanente à l'Est du Congo. Et cette situation conflictuelle est dictée par des besoins spécifiques, des besoins hégémoniques, des besoins géostratégiques et géopolitiques mondiales. Plusieurs pays, plusieurs nations se trouve au Congo à partir de l'Est. Et cela est justifié notamment par la porosité de notre territoire, par les richesses que nous avons, et même ce qu'on appelle communauté internationale se trouve à l'Est. Voilà pourquoi c'est difficile, si on n'a pas cerné ces problèmes, de pouvoir chercher à les résoudre toujours avec la même formule de la communauté internationale. J'encourage la démarche du président de la République, qui est allé à Doha. En fait, le président est le mieux informé de la situation, des enjeux géostratégiques de cette guerre. Et cela nécessite absolument qu'il y ait une conférence internationale, qu'il y ait l'intervention des grandes puissances qui peut influer aussi bien sur le Congo que sur le Rwanda.
Professeur Vélé, professeur, s'il vous plaît, vous avez, oui, vous avez présenté la situation, comment le problème de la RDC est complexe, mais maintenant, puisqu'il faut avancer, les problèmes est bel et bien là. Il y a déjà des pourparlers. On a parlé des pourparlers de Luanda, de possible paix de Luanda, de Nairobi. On a parlé des différentes rencontres diplomatiques par rapport à la question de la paix à Luanda, plutôt en RDC, à l'est du pays. On vient de parler de la rencontre à Doha. Est-ce que parmi ceux qui estiment que c'est trop de rencontres, ça peut amener à la confusion, il faut plutôt se référer à la résolution 2673 du Conseil des sûretés? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on va rapidement revenir à notre invité, peut-être écouter encore notre auditeur pour conclure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais avant d'y arriver là-bas, je précise tout simplement, en bref, que les résolutions des Nations Unies, pour la plupart, sont des résolutions hypocrites. Hypocrite, pourquoi? Parce que le même commanditaire donne des résolutions qui ne seront pas mises en pratique. La guerre à l'Est, actuellement, c'est les conflits militaires que nous avons, ces conflits qui se greffent sur les conflits existants. Des personnes frustrées comme les Nanga, comme les M23, se trouvent déçus, frustrés, confus, et ils s'invitent dans la soupe et dans cet terrain conflictuel hein, est soutenu par le Rwanda. Donc, moi, je suis de l'avis qu'il faut en même temps résoudre la question au niveau international, mais aussi aux questions nationales. La négociation sur le plan national est importante. Ne vous en faites pas, chers amis, chers auditeurs, je pense que la plupart des décisions de la communauté internationale sont hypocrites.
Voilà, voilà, ça c'est voilà, c'est professeur, on n'a plus assez de temps, c'est votre avis, on a compris, il faut, pour vous, ce sont des résolutions souvent hypocrites, il faut que le Congolais pense aussi à trouver des solutions à l'interne. Merci, professeur Vélé, d'avoir réagi depuis Bandundouville. Avant d'avoir le dernier auditeur qui nous appelle depuis Goma, je vais rapidement quand même lire une réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs. C'est celle de Gaspard depuis Bukavu au sud de Kivu. Cette rencontre surprise entre les deux chefs d'État et cet empilier non négligeable parmi les processus déjà entamés. Cependant, il nous a déçus car le cessez-le-feu déclenché entre les deux chefs d'État n'a été que simple souhait. Un simple souhait n'a pas été respecté par les belligérants sur le terrain. Nous proposons la reprise rapide poursuite de Luanda pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré depuis plus d'une décennie à l'est de la RDC. Voilà, ça c'est Gaspard qui a réagi depuis Bukavu. On va prendre le tout dernier auditeur. Et ensuite, on va conclure avec notre invité, il s'appelle Pascal Kanani, qui nous appelle depuis Goma. Pascal Kanani, vous avez la parole.
Oui, papa Marcel, bonjour.
Allez-y, on vous écoute. Alors, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Vous êtes déjà en ligne, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette rencontre du doigt?
Oui, premièrement, j'aimerais dire que je suis directeur d'une société de sécurité à Goma.
Oui.
Actuellement, je suis à Kinshasa. Et si la RDC peut aller dans la logique de la résolution 2773, nous serons un peuple naïf.
Oui.
Parce que si je prends l'exemple de l'Ukraine, la communauté internationale, l'ONU, toutes les organisations, et toutes les organisations, tous les organismes, ils avaient condamné la Russie. Et ils avaient leur obligé de retirer leurs troupes du territoire de l'Ukraine. Mais jusqu'à maintenant, la Russie continue à faire l'invasion à l'Ukraine. Et je pense que actuellement, si on prend les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, lorsque l'ONU avait dit de que les Rwandais puissent retirer leurs troupes le sol congolais. Mais le ministre avait dit que l'ONU, ce n'est pas la Bible. Alors, actuellement, la solution pour la guerre à l'Est, monsieur Marcel, personnellement, j'ai écrit une lettre au président de la République, au moins cette fois. Je pense que c'est l'entourage du président qui lui induit sa erreur. J'ai demandé l'audience auprès du président pour lui donner un mécanisme qui va mettre fin à la guerre.
Voilà, j'espère que votre audience va aboutir, mais en attendant, vous estimez qu'il ne faut pas faire confiance à cette résolution, ça c'est selon vous.
Oui, je pense si je faisais une révélation ici, monsieur Marcel, ça serait donné l'ennemi.
Voilà, merci. Vous gardez cette révélation pour vous, Pascal Kanani. J'espère que votre audience va aboutir. Merci d'avoir appelé depuis Goma, professeur. On va conclure avec vous. Vous avez suivi les autres, ceux qui estiment que les résolutions du Conseil de sécurité sont hypocrites. Vous insistez, il faut vraiment se baser sur cette résolution. Il y a ceux qui estiment qu'il faut des problèmes africains avec des solutions africaines. Il y a ceux qui estiment également des problèmes congolais, il faut des solutions congolaises.
Oui, merci. Je vais réagir rapidement. Pour Doha, le président de la République, c'est le premier diplomate de notre pays. Et donc, il faut parler avec les amis du Congo, mais il faut aussi parler avec les ennemis des adversaires. C'est très important. Tout est question de savoir, quand on parle avec les ennemis, c'est pour arriver à quel résultat. Donc, le problème n'est pas là. Le président peut faire, c'est dans ses attributions, dans ses compétences. Maintenant, pour revenir aux solutions, en 1961, le 24 novembre 1961, le Conseil de sécurité a pris la résolution 169 pour autoriser le recours à la force de manière à frapper tous les sécessionnistes katangais qui créaient le désordre au Katanga. Donc la sécession du Katanga a été anéantie par l'ONU. Il y a eu des combats à Lubumbashi, à Kolwezi, pour chasser les gendarmes à Katanga. Donc le Conseil de sécurité nous a déjà aidés en appliquant sa propre résolution par le recours à la force.
C'est ce que les gens attendent alors, c'est qu'ils attendent aussi pour cette fois-ci.
Oui. Allez lire la résolution 169 du 24 novembre 1990. Et en janvier 62, c'était fini avec la sécession du Katanga. Le recours à la force. Oui. Je vous ai parlé du cas de la Libye. Résolution 748. 31 mars 1992. Le Conseil de sécurité a décrété des sanctions multilatérales contre la Libye, notamment l'embargo aérien sur la Libye, et ça fait trop de mal à la Libye, et Kadhafi a reculé. Le ministre Mouyaya parle de sanctions robustes. Eh bien, je demande au ministre Mouyaya, d'après le texte, je suis prêt à lui envoyer la résolution 747. Et donc, pour faire respecter la résolution 2073, il faut que le Conseil de sécurité fasse respecter son autorité, sa crédibilité, en prenant des sanctions sévères sur le modèle de la résolution 748 contre la Libye. Il faut le faire contre le Rwanda. Vous allez voir, au bout de quelques jours, si on décrète un embargo aérien, qui veut dire qu'aucun avion ne peut atterrir à Kigali, aucun avion ne peut quitter Kigali pour aller ailleurs, le pays sera asphyxié, l'arrogance va se terminer.
Il faut des sanctions fortes.
Il n'y a pas une autre solution. Mais maintenant, en plus de cela, il faut que tous les processus soient coordonnés maintenant.
Exactement. Rapidement, on ne
peut pas. Il faut demander au Conseil de sécurité. Ça, c'est la RDC qui doit le faire. Il faut demander au Conseil de sécurité de nommer un représentant spécial du Conseil de sécurité, donc des Nations Unies, qui viendra au Congo pour rassembler tout le monde, faciliter les discussions internes, parce qu'il y a un problème de méfiance, n'est-ce pas ? Il faut mettre un facilitateur crédible, respecté, qui peut réunir tout le monde pour aider le gouvernement congolais à voir les Congolais comment trouver des solutions
aux problèmes internes. Ça va permettre meilleure coordination, selon vous.
Il faut que le Conseil de sécurité coordonne maintenant le processus de paix au Congo. Mais entre-temps, le Rwanda n'a pas sa place au Congo.
Voilà.
Son armée doit quitter. Et comme je l'ai dit la fois passée, je le répète, vous ne pouvez pas demander à la RDC de négocier avec un crocodile qui a la jambe de la RDC dans sa gueule. Et donc, il faut libérer le territoire congolais. Voilà, si le Rwanda ne veut pas bouger, il faut le sanctionner de manière sévère. Le M23 doit absolument respecter la région du Conseil de sécurité et quitter les territoires, démanteler les administrations. Parce que, je termine par là.
Rapidement, professeur, on a perdu du temps.
Oui. Il faut être intelligent.
Oui.
Ce qu'il faut réclamer, c'est le retrait immédiat et sans condition.
Vous l'avez déjà dit, professeur, on a compris. Vous l'avez déjà dit, professeur, on a compris. Fin de ce numéro de pause de professeur, on a déjà compris. Merci. Merci pour ce petit bon calala. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Fin de ce numéro des Paroles aux Auditeurs. On espère vous retrouver prochainement. Merci à toute l'équipe de production.